Bonjour, nous sommes dans les studios de Radio Galaxy avec Christian Caillol pour une nouvelle émission de La Bougeotte. Bonjour Christian.
Bonjour Francis, bonjour à tous.
Tu nous amènes visiter la merveille, Quetzalco.
La merveille, oui, effectivement. Aujourd'hui, je vous amène un peu au soleil, hein, c'est en préparation de l'été. Et surtout, je vous amène sur une épreuve de VTT. Je vais partager avec vous un peu plus que d'habitude sur une épreuve de VTT importante où il y a par plus de 20 000 passionnés. On est au cœur du Massif des Maures et la mer veille parce que ben, la mer elle est omniprésente. Elle veille sur une fin d'été en apportant un goût de vacances et sur cet arrière-pays pittoresque, riche en patrimoine millénaire, riche de couleurs, de senteurs, de trésors cachés aussi qui se découvrent, à qui sait les dénicher. Et la merveille, eh bien, oui, comme le titre de l'émission, c'est la mer, elle veille.
Voilà, voilà, et en même temps, la merveille.
Voilà, merveilleuse.
Voilà. Dès le départ, on voit grosse compétition de VTT. Comme tu dis, un nombre de personnes, c'est hallucinant. C'est vraiment une alternance après, mais une bonne alternance. C'est-à-dire, il y a autant de VTT, on voit, que de découvertes de paysages, ruines, etc. Pont romain, moulin à vent,
oui, la totale. Il y a beaucoup de choses, mais il faut, quand même chercher un petit peu. Mmh. Et comme bien souvent, le VTT, on va se le garder un petit peu pour la fin.
Hein. Oui, bon, si
voilà,
tu veux.
Alors d'accord. Avant cela, je vais vous décrire un petit peu où on est, le paysage. Et on est situé à l'embouchure de l'Argence et du Réran, c'est un affluent, à Fréjus. Fréjus, il faut savoir que pendant l'Antiquité, la mer montait 200 mètres plus haut à l'intérieur des terres. Elle arrive aux collines, de telle sorte que cette position présentait de nombreux avantages. Tant et si bien que les Romains s'y sont installés, essentiellement pour supplanter Massalia, comme ils l'avaient fait avant avec Arles. Fréjus devient une colonie qui reçoit une bonne partie des vétérans de la 8e Légion créée par Jules César. C'est devenu un coup d'accélérateur dans le développement de son port, de ses infrastructures et de son rayonnement. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il va y avoir ce camp romain va édifier une enceinte de près de 4 km, un amphithéâtre, un aqueduc, un théâtre et des vestiges qui sont encore bien visibles de nos jours. Voilà la raison pour laquelle ces précisions. Mais cette situation avantageuse à l'époque de Jules César l'est beaucoup moins aujourd'hui. La proximité de ces cours d'eau pose aujourd'hui des problèmes récurrents que tout le monde connaît, problèmes d'inondation. On en entend souvent parler. Alors, au cours des siècles, dans cette vaste plaine de l'Argence qui a modifié plusieurs fois le tracé de son lit, en particulier à la base de nature, le siège de l'édition du Roc d'Azur, cette fameuse compétition de VTT, cette base aéronavale ancienne, s'est construite sur d'anciens méandres et puis le port, lui, il est situé à l'emplacement d'une ancienne embouchure. Alors, autre souci, le recul de la mer a laissé de nombreuses zones inondables et aujourd'hui très urbanisées. Je vous parlais donc de l'Argence et du Réran. Le Réran, c'est un petit affluent qui est en partie bétonné et qui peut voir passer son débit de rien du tout, 3 litres seconde. Ah, plus de 200 mètres cubes seconde lors de la crue, par exemple, de la crue de 2015. Les Romains y avaient bien compris qu'avec ce débit aussi fantasque, le Réran ne pouvait pas être une source fiable pour l'alimentation en eau de la ville. Et il ne fallait pas non plus compter sur l'estuaire de l'Argence, qui lui est trop marécageux. Ils sont donc allés chercher une source à 25 km et ils ont construit un aqueduc de 40 km. On en trouve encore les vestiges. Cet aqueduc a subi au cours des siècles différentes dégradations. À la fin du 19e, il est doublé par une canalisation en béton et dans les années 30, un projet de barrage sur le Réran est esquissé, mais c'est resté sans suite.
Et dans tes vidéos, je te coupe, on rappellera la vidéo, on voit plein de morceaux d'aqueduc.
Effectivement, certains qui ont été dronés. Ouais. Mais oui, bon, mais c'est pas bien loin de Fréjus, ça. On est à 4 ou 5 km de Fréjus. Ouais. Il y a plusieurs arches encore.
Ouais, d'accord. Voilà. On rappelle ta vidéo?
La vidéo, la merveille. Le site où vous trouvez les liens, randovttvideo.free.fr, c'est mon site perso.
Ouais.
Et puis, le site Radio Galaxy, voilà, vous l'aurez de suite là aussi.
Ouais.
Voilà.
Okay. Ouais. Okay. Allez, je te laisse continuer dans ton voyage.
Donc, on en était que dans les années 30, il y avait un projet de barrage sur le Réran qui n'avait pas été donné de suite. Et pourtant, dans les années 50, la décision se porte sur un barrage qui sera mis en eau en 1954. Un barrage en voûte de 222 mètres de long. La suite des événements confirmera les doutes avant-coureurs. Les études préliminaires étaient contre la construction d'un barrage voûte. Elles conseillaient la technique d'un barrage poids. Au cours des travaux, des techniciens expriment des doutes au sujet de la qualité de la roche d'ancrage, très fissurée, paraissant inapte à supporter les efforts. De plus, il sera montré un manque de rigueur dans le contrôle du comportement du barrage lors de la mise en eau. En novembre 1959, des pluies diluviennes s'abattent sur la région. Il va tomber 500 mm en 10 jours. Des suintements commencent en aval du barrage. Ils deviennent vite des sources. Le niveau continue de monter, malgré l'ouverture de la vanne de vidange. À 21h, le 2 décembre 1959, le barrage cède. 50 millions de mètres cubes dévalent, créant une vague de 40 mètres de haut, à 70 km/h, qui balaye tout sur son passage en direction de la mer. Les familles, elles, pendant ce temps, elles regardaient la piste aux étoiles. On se souvient de ça quand on l'a vécu. À la télévision, on ne pouvait pas le manquer. D'un seul coup, c'est tout noir. La vague vient d'atteindre le pylône EDF qui alimente la ville. Elle atteint Fréjus jusqu'aux arènes, en 20 minutes, ne laissant aucune possibilité de se sauver. Terre, morceaux d'arbres, corps humains, bêtes sont emportés. La gare de Fréjus, la plage, la base aéronavale sont dévastées et recouvertes de 50 cm de boue. Il y aura 423 morts, des dégâts considérables. 7000 sinistrés, 1000 hectares de terres agricoles ravagées. L'autoroute et la voie ferrée sont emportées sur plusieurs centaines de mètres. La vallée du Réran, elle est décapée sur 5 km. Pendant plusieurs jours, routes, téléphones, électricité sont coupées. Ça a été la plus grande catastrophe civile du XXe siècle. Un drame national. On peut aller sur place se rendre compte de nos jours. Vous accédez au barrage par un sentier qui permet de palper la puissance de la vague. Quand vous voyez cette plaie béante, vous êtes désemparé. La végétation a encore du mal à pousser. À chaque détour du chemin, les stigmates se drament. Des blocs en ciment, des fers tordus. C'est douloureux à voir. Encore de nos jours. Les conclusions du procès. Aucune faute professionnelle n'est retenue à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage. L'ouvrage était techniquement irréprochable. Donc, aucune indemnité à verser. L'État, le département et la générosité publique indemniseront les victimes, assureront l'essentiel des dommages. L'architecte André Coine, créateur de centaines de barrages de ce type, dans tous les pays du monde, aurait dit « J'ai barré le Zambèze et j'ai un accident de ruisseau ». Suite à ce cataclysme, le Réran est canalisé et une nouvelle source d'eau est recherchée. Ce sera une retenue au barrage de Saint-Cassien, réalisé de 1962 à 65, qui assure Fréjus et l'adduction en eau à la partie ouest des Alpes-Maritimes. Nous venons juste de passer le 60e anniversaire de l'accident. C'est toujours bien triste. Tournons le dos au Réran. Voici le rocher de Roquebrune. Bien éclairé toute la journée, c'est un magnifique chaos de gneiss qui accroche le regard dès qu'on sort de l'autoroute. À l'intérieur de ce chaos, dans une grotte, a vécu un ermite pendant une cinquantaine d'années, jusqu'en 1917. Il s'agissait de frère Antoine, ancien moine cistercien, bien connu, autant pour sa bonne humeur que pour sa philosophie de la vie. Voici ce qui est écrit tout près de la grotte quand on arrive, sur un panneau. L'extraordinaire, c'est d'être content de ce qui nous est donné au lieu de pleurer ce qui est perdu. C'est être souriant quand tout le monde est grognon. C'est de voir le beau malgré le médiocre et le laid. C'est espérer quand tout se décourage. C'est croire quand tout le monde doute. C'est aimer dans un milieu hostile. Et vous, êtes-vous extraordinaire?
Oui, c'est tout à fait ça.
Il est quand même l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. À une dizaine de kilomètres de ce rocher, la ville de Fréjus accueille, sur la base aéronavale, au mois d'octobre, on en a parlé un petit peu, depuis 1984, une manifestation mondialement connue, le Rock d'Azur. Nous allons en reparler, car je le garde pour la fin, comme je vous l'ai dit. Mais avant d'être parcourue par des milliers de vélos, elle était piste aérienne. Et là, je voudrais évoquer un exploit remontant à la grande épopée de l'aviation. Ici, Roland-Garros, on connaît les emplacements des épreuves de tennis.
Voilà.
Attention, il décolla le 23 septembre 1913 pour atterrir à Bizerte, au nord de la Tunisie. Il décolla de Fréjus. Il est le premier à avoir traversé la Méditerranée en avion. Un exploit réalisé par ce pionnier en 8 heures sur un monoplan, un Morane Saulnier, à la vitesse moyenne de 101 km/h. C'était un sportif accompli, il pratiquait le cyclisme, le rugby, et il s'est tourné dès 1909 vers l'aviation, en apprenant pratiquement à voler tout seul, d'un avion qu'il vient juste d'acheter, et si ce n'est la collaboration d'un autre kamikaze comme lui, qui en savait sûrement pas beaucoup plus. Il passe le brevet de pilote et il aura le numéro 147. À 22 ans, il est associé à une équipe franco-canadienne pour une tournée d'exhibition à travers les États-Unis. Alors là, il peut voler tous les jours, il affine sa technique, notamment avec l'utilisation de la boussole et du vol par tous les temps. De retour en France, il se consacre à des meetings aériens où il gagne de nombreux prix. Participe à de très nombreuses grandes épreuves. Il décroche entre autres le record d'altitude en 1911 avec 3950 mètres, plus haut que les Pyrénées, et cela le place parmi les meilleurs pilotes en France. On se l'arrache de toutes parts pour des démonstrations. Il devient pilote d'essai des avions Morane Saulnier. Il sera le premier à traverser par la voie des airs la baie de Rio de Janeiro au Brésil et à survoler aussi la forêt amazonienne. Il établit un nouveau record d'altitude en 1912, 5610 mètres. Et donc, ce 23 septembre 1913, Roland Garros décolle à 5h47 du matin, alourdi de 200 litres d'essence, 60 litres d'huile de ricin. Il devait y avoir des fuites. Il part à la boussole. Son moteur cafouille par deux fois au large du Cap Corse et au-dessus de la Sardaigne. Malgré tout, il se pose 780 km plus loin. Il ne lui reste plus que 5 litres d'essence dans le réservoir. Il avait bien calculé. Seulement 4 ans après l'exploit de Berlioz qui avait traversé la Manche, lui traverse la Méditerranée. En 4 ans, c'est un progrès extraordinaire.
Ouais, c'est énorme.
Roland Garros devient la coqueluche de la France et du tout Paris. Pour l'Atlantique, il faudra attendre la traversée de l'Atlantique 1919. Les Britanniques, Alcock et Brown, on en parle rarement, on pense qu'à Lindbergh, ils ont traversé de Terre-Neuve à l'Irlande en 1919, il faudra attendre 1927, Lindbergh qui traversera de New York à Paris. Peut-être la côte, je ne sais pas. 1914, Roland Garros s'engage comme volontaire. Si au début les pilotes s'échangent des signes amicaux, suivent quelques semaines après des tirs au fusil, au revolver et à la mitrailleuse. Il remporte des victoires seul aux commandes de son monoplace. Il va même participer à la mise au point de la mitrailleuse qui tire à travers le champ de l'hélice. En 1915, le 18 avril, il est fait prisonnier pour avoir été abattu. Après 3 ans de détention, il réussit à s'évader et à revenir en France. Fait chevalier de la Légion d'honneur, il n'a qu'une idée, reprendre le combat. Il meurt au champ d'honneur le 5 octobre 1918, même pas 3 semaines avant l'armistice. Il a 30 ans et il est abattu en combat aérien. Pour conclure, je pense qu'il n'est pas mieux que de citer Pierre Klostermann qui a écrit « Tous ceux qui se sont succédés aux commandes d'un avion de chasse depuis 3/4 siècle sont un peu ses descendants. L'avion de Garros de 1914 a enfanté le Spad de Guynemer, puis le Spitfire de 1940, le Messerschmitt 262 en 1945 et les Mirage aujourd'hui. Chaque fois, les appareils réunissaient peu ou prou la somme des connaissances et de la technique les plus avancées du moment. Les hommes aussi qui retrouvent dans le sens de la patrie l'absence de haine pour l'adversaire qu'on n'appelle jamais ennemi, et que l'on respecte pour un amour passionné des avions que l'on partage. Merci Pierre Klostermann. Et alors maintenant, Fréjus, le Roc d'Azur, on va en parler.
Ah, c'est un peu plus terre à terre alors.
Autour d'un gigantesque salon où plus de 300 marques exposent d'autres merveilles, pas à hélice cette fois, qui vont faire rêver plus de 100 000 visiteurs. Et puis, pendant 5 jours, plus de 20 000 amoureux du VTT et de la nature vont s'affronter. C'est la plus importante manifestation au monde qui réunit ensemble sur les courses les élites, les amateurs et les débutants sur le même parcours. L'épreuve commence en 1984, avec tout simplement 7 copains qui se défient sur les sentiers de Stérel. Personne n'imaginait un seul instant le devenir de cette randonnée. Pour des raisons d'organisation, vu le nombre grandissant de participants, le site s'est déplacé de Ramatuelle à Fréjus et au Massif des Morts. C'est actuellement la grande messe du VTT, un rendez-vous incontournable à faire au moins une fois dans sa vie. En ce qui me concerne, je l'ai pris le départ au moins une quinzaine de fois, avec les mêmes objectifs que 90% des participants, faire le meilleur possible, malgré les efforts intenses, prendre un réel plaisir sur ces magnifiques sentiers ludiques et techniques. Alors, le départ, vous verrez sur mes images, plat, sur l'herbe, c'est trompeur. À ce moment de la course, tout le monde se sent des jambes de folie. Au coup de sifflet, il n'y a plus à réfléchir. Une seule technique, à bloc, sur la plaque. Et puis, seulement 2 kilomètres plus loin, on est déjà mort. Alors, lorsqu'on sort de cette base de loisirs là sur l'herbe et qu'on attaque les chemins caillouteux, on est déjà mort alors qu'il reste encore une quarantaine ou plus de kilomètres à faire.
Le truc à ne pas faire, ça c'est des débutants quoi.
Pourtant, tout le monde est fort, tout le monde fonce.
Tout le monde fonce, oui. Le spectacle normal.
Le truc c'est de sortir dans les premiers de cette espace gazonné là, pour arriver sur les chemins caillouteux, c'est de sortir dans les mieux placés, parce qu'après ça bouchonne, alors donc voilà.
Ouais, ça fait un tonnoir en fait, donc il faut être devant.
Okay. Pourtant ça part par... Il n'y a pas 20 000 personnes qui partent d'un coup, c'est des vagues de 500, on part par 500. Mais 500, c'est énorme, surtout que la vague précédente est partie un quart d'heure avant. Les premiers de la vague numéro 2 rattrapent rapidement les attardés de la vague numéro 1. Hein, bon. Alors, certains passages sont devenus mythiques. La descente de Fournel, le col du Bougnon, le chemin des douaniers. Ah, la descente de Fournel, c'est pas simple du tout. 50% des participants sont à pied. Il y a beaucoup de spectateurs qui sont venus pour assister au spectacle, surtout les gamelles, ça leur plaît bien ça.
Oui, mais c'est toujours pareil.
Alors comme on dit, c'est chaud. Il y a du bruit, des cris, de la poussière, il y a des chutes. Il faut rester concentré, prendre la meilleure trajectoire, surveiller ceux qui précèdent, qui s'arrêtent, qui tombent, éviter les pierres qui roulent. Les meilleurs débranchent le cerveau, comme on dit. On lâche les freins et on verra bien ce qui se passe. Là, on est à Fournel, un peu plus loin. On arrive, on fait un peu plus loin, une heure après, largement, parce que deux, même. Le col du Bougnon, alors là, c'est un brouhaha qui surprend, et on l'entend de loin, on ne le voit pas quand on arrive pour la première fois, on ne comprend pas ce qui se passe, on entend un brouhaha vaguement, mais on ne sait pas. On arrive 5 minutes après, alors là, c'est la foule. On découvre alors cette haie humaine, laissant juste un passage de quelques mètres, sur cette fameuse et légendaire grosse montée. Alors les encouragements, ça motive. Mais le physique, il est déjà entamé, hein. Et pourtant, c'est loin d'être fini, on n'y est pas. Hein. Et ensuite, bon, il y en a d'autres passages, mais bon, un des sympas, le chemin des douaniers, alors là, on longe la côte entre l'écume et les rochers, c'est beau, c'est encore technique, la chute est toujours possible, l'arrivée n'est pas très très loin, moins de 10 km, il faut quand même rester vigilant, et c'est surtout un grand plaisir d'arriver là, voilà. Et après, bien sûr, le final. Et le rock, c'est une épopée intense, hein, c'est the must. Hein. Le rock, il attire avant, on le maudit pendant et on le rêve après.
Et toi, combien de gamelles t'as pris? Je veux savoir.
Je ne sais pas, j'ai toujours entendu dire qu'il faut tomber 40 fois au moins avant de savoir faire du vélo.
D'accord, donc ça va. Comme tu sais faire du vélo, ça va.
Alors, par contre, eh bien, si vous aimez le VTT, faites ça au moins... Au moins une fois, ou en rando, ou en course, seul ou à plusieurs, à la pédale, ou maintenant, comme on dit, à l'électrique. Mais bon, voilà, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais bon, allez-y au moins une fois. Un dernier mot, avant de conclure. On vient de parler du chemin des douaniers. Aujourd'hui, ça s'appelle le sentier du littoral. Ça date d'une ordonnance de marine de 1681, qui crée le chemin des douaniers. Et la Révolution interdit l'importation de produits. Et sur les 5500 km du bord de mer en France, une grande partie était parcourue à partir de 1791 par les douaniers pour lutter contre la contrebande. En 1831, les douaniers deviennent militaires, avec le devoir de défendre les côtes, un devoir de police, de secourir les naufragés et aussi de veiller à ce que les navires échoués ne soient pas pillés. La raison, elle est simple. À cette époque, tout bateau échoué devient propriété de l'État. Alors donc, faut pas piquer. Ces chemins seront délaissés au début du XXe siècle. Ils seront réhabilités en 1976 en mettant en place les sentiers du littoral. La servitude de passage est de 3 mètres, elle est appliquée sur l'ensemble de la côte pour laisser passer les piétons. Le Roc d'Azur bénéficie d'une dérogation ou d'une autorisation exceptionnelle parce qu'on passe à vélo, il y a même des motos, les motards qui encadrent, qui passent par là. Voilà, donc ainsi se termine cette bougeotte, cette nouvelle bougeotte. Alors je vous invite bien sûr, je vous le redis, à aller voir les images. Cette fois, vous verrez des images de VTT avec un départ du Roc d'Azur.
Ouais, qui est assez impressionnant quand même. Quand tu le vois de haut au drone, c'est pas mal.
Ouais. Merci, ouais. Et vous verrez à la fin, bien sûr. Là, c'est pas une aquarelle, c'est un pastel. Nadine a peint un pastel qui s'appelle « Moi, j'aime la mer ». On voit cette mouette au-dessus des vagues. Là, voilà. Bon, voilà. Voilà pour cette émission.
Et attends, chose rare que j'ai vue quand on voit ta vidéo, c'est que tu as un magnifique cadran solaire. Alors, j'aimerais bien que tu nous dises le village.
C'est au village des Arcs. D'accord. Il n'y en a pas qu'un, il y en a de nombreux.
Ouais, mais c'est très rare qu'on les voit sur tes vidéos.
C'est vrai. On termine là-dessus. Et la prochaine fois, ce sera une rando landaise.
Avec des vaches landaises.
Voilà, une rando landaise.
D'accord.
En attendant, bougez, mais bougez en France. Merci Francis, au revoir tout le monde.
Ciao, au mois prochain, merci Christian.